examen civique. Oui, pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui veulent la nationalité française. Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, que nous n'arrivons pas à intégrer beaucoup d'immigrés. Donc, il faut absolument avoir des gens qui viennent de l'étranger. Simplement, il faut prendre des personnes qu'on est capable d'intégrer et qui ont la volonté de s'intégrer.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir avec un passeport en règle dans Zoom Zoom Zen, l'émission qui chaque après-midi décrypte les mots, les pratiques et parfois même quand on est chaud, les lois dans l'air du temps. Aujourd'hui, on va justement zoomer sur une épreuve qu'on connaît moins que le bac ou le brevet, l'examen civique. Un examen que doit réussir depuis le 1er janvier tout étranger souhaitant être naturalisé français. Au programme, une série de questions parmi lesquelles où peut-on voir la devise de la République française, quel est le nom de l'hymne national, quelle est la date de la fête nationale française ou encore de quand date la constitution de la 5e République. Je vous pose la question.
1958.
C'est bien, Quentin. Vous n'êtes pas si nul que ça. Alors, comment est-il pensé cet examen ? Le principe même d'un examen comme prérequis à l'obtention de la nationalité française, qu'est-ce que ça dit de notre vision de l'immigration ? L'immigration peut-elle être vraiment choisie, comme on l'entend souvent ? Faut-il qu'un étranger soit déjà un peu français avant de le devenir ? Ne doit-on pas plutôt miser sur le fait qu'il va le devenir une fois parmi nous ? Pour certains, cet examen est en tout cas trop théorique. Cyril Lacarrière, trésorier de l'association LFSM, La France, elle se mérite, section Seine-et-Marne, déclarait ainsi récemment dans les pages de Valeurs Actuelles que cet examen, je cite, était complètement bidon. Dans cette interview fleuve, où il estime aussi, je cite, que Pasqua manque à la République et que, avec François Fillon à l'Élysée, on n'en serait pas là, Cyril précise sa pensée. Pour lui, l'examen civique devrait se doubler d'un examen pratique. Son argument, frappé au coin du bon sens, est le suivant. À quoi ça sert de savoir que la devise de la République française est liberté, égalité, fraternité si on flanche devant un pâté en croûte ? D'où sa proposition d'un examen pratique inspiré de l'émission Hot Ones de Kian Kojandi, où le demandeur d'asile devrait bouffer des fromages affinés du plus doux au plus violent, de la bûchette cendrée à l'époisse. Celui qui passerait le cap ultime du brie noir obtiendrait même une prime d'installation. En revanche, celui qui tournerait de l'œil dès le brie à Savarin serait renvoyé illico presto par le premier charter. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une proposition, mais méfions-nous. 2027 va arriver vite et selon le futur locataire de l'Elysée, le Hot Ones du Fromton pourrait devenir réalité. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Cyril.
C'est quand même autre chose que des nuggets, quoi. Tu vois, c'est vulgaire, les nuggets, le fromage, c'est chez nous.
Mais vous vendez bien votre idée. Vous allez pouvoir en parler justement à Didier Lesky. Bonjour, notre invité. Bonjour Didier, vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, un organisme public chargé d'organiser l'accueil des migrants. On vous avait reçu dans ce studio il y a quelques mois pour nous éclairer sur les OQTF. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est donc pour nous en dire plus sur cet examen civique. L'OFI prépare les candidats à la nationalité française à passer cet examen indispensable à l'obtention de la carte d'identité. De quoi s'agit-il ? S'est-il durci, comme on a pu l'entendre ? Vous allez tout nous dire, juste le temps de vous présenter deux Français de souche. C'est en tout cas ce que Thierry Mariani, l'oncle RN de Manon, a toujours répété à sa nièce.
Ce n'est pas mon oncle.
Qui, parfois, petite, dans les dîners de famille, lui demandait « Mais tonton Mariani, c'est un peu italien, non ?» Non, on est 100% français. L'héritage, ça a toujours été des feignants, sauf certains pendant les années 30, mais c'était une autre histoire pour raconter quand tu seras grande. Super tonton, en tout cas, il est super ton tiramisu. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
à tous.
Bonjour,
c'est plus ce corse qu'italien.
Votre Mariani à vous, précisons qu'il n'est pas le même. À vos côtés, Didier, il est à peine 16h08 et pourtant je peux déjà l'annoncer officiellement, elle ne remportera pas aujourd'hui le Zoom Zoom Test. Et non, tout simplement parce qu'elle ne participera pas au Zoom Zoom Test.
Je suis triste.
C'est la meilleure nouvelle de ce début de semaine.
Épreuve emblématique de cette émission dont elle s'est auto-exclue vendredi dernier en traitant son producteur de bébête à l'antenne, alors même que je venais de partager un souvenir d'enfance avec mon père, de la mort duquel je ne me suis jamais tout à fait remis. La sanction est donc tombée. Manon, vous le savez, il n'y aura pas de quiz pour vous aujourd'hui. Pire, vous serez remplacé par Pierre Courade.
Mais quel enfer.
Sartre disait l'enfer c'est les ordres, il aurait pu ajouter a fortiori si l'autre est Pierre Courade. Alors pas de quiz, mais une pièce jointe quand même.
Bien sûr, une carte aujourd'hui et pas n'importe laquelle, elle est en or, elle a la tête de Donald Trump dessus et elle coûte $1 million. Bon courage pour l'avoir.
Face à vous Didier, un véritable hyperactif. Qu'on pourrait presque qualifier de chien fou. Chaque jour il épluche toute la presse régionale, il interroge des centaines de gens dans la rue, il écrit deux chroniques et entre deux réunions il trouve encore le temps de s'offrir un petit octogone avec son copain Cyril Lacarrière.
au copain.
Attention, Quentin.
On n'est pas copains.
Vous aviez oublié votre coquille la dernière fois. Comment ça s'est fini? Qui a eu le dessus?
Ah, ça s'est bien fini.
Ça s'est bien fini.
C'est bien de rappeler qu'il ne peut pas régner sans contradiction.
Ouh, attention.
À la fois il règne, donc ça va.
Quentin, maintenant que vous êtes détendu, racontez-nous dans la rue.
Je suis bien détendu.
Vous êtes détendu maintenant. Vous êtes détente. Ah, ouais, le week-end est passé par là. Oui. Dans la rue, les passants, ils connaissaient déjà l'existence de cet examen civique?
Pas tout à fait encore. Il y a du chemin, mais la question à leur poser aux Français de souche, comme vous dites, c'est sont-ils capables d'y répondre à ce test civique? Je suis allé voir comment se porte la France dans la rue. Réponse dans la prochaine demi-heure.
C'est plus large.
Seulement c'est grandi, ça, quoi.
Ouais. Comment se porte la France? Vers 16h30, nous découvrirons que l'examen civique, c'est de la gnognotte par rapport à ce qui se fait dans certains pays. En Suisse, par exemple, il y a des règles très précises à respecter si vous demandez la nationalité. Lesquelles? Eh bien, ça sera à Quentin et Pierre de le deviner. Manon, elle, tiendra la chandelle. Juste avant 17h.
C'est bien la première fois.
Marine Leonardi, la maman la plus débordée de France, nous rejoindra après 17h. Alors, restez avec nous, ça fait un an pile que Donald Trump est de retour à la Maison Blanche, ressenti vachement plus. On fera le bilan de sa première année de mandat avec une spécialiste des États-Unis et légende de l'audiovisuel français, Christine O'Krent sera notre invitée. Mais pour l'heure, zoom donc sur ce prérequis à la naturalisation, l'examen civique. Didier Lesky, je disais en vous présentant que l'examen civique était le préalable pour devenir français, mais est-ce que c'est le seul cas pour lequel on doit passer cet examen?
Non, c'est pas le seul cas. En fait, depuis le 1er janvier donc, de cette année, pour avoir une carte pluriannuelle, comme on dit, c'est-à-dire de 2 ans ou de 4 ans, ou une carte de résidence, c'est-à-dire une carte de 10 ans, comme après accéder à la nationalité française, on passe un examen civique avec des questions qui sont plus ou moins dures en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà.
Ah, et d'accord, c'est pas le même examen dans tous les cas.
C'est pas les mêmes examens, au sens, c'est pas exactement les mêmes questions, okay. Elles sont plus ou moins difficiles. Et en plus, c'est un QCM, c'est-à-dire pour chaque question, vous avez 4 réponses possibles. Voilà. Et donc, l'OFI prépare à cet examen. Et en plus, les questions sont en accès libre sur un site du ministère de l'Intérieur. Donc, vous pouvez vous préparer. En réalité, c'est un peu comme le permis de conduire, si vous voulez.
Oui, c'est ça. On peut connaître toutes les questions à l'avance. On sait pas celles qui vont tomber le jour de l'examen.
Voilà. Mais on peut se préparer à cela. Après, sur la nationalité française, c'est bien évidemment le niveau le plus dur. Mais la nationalité française, c'est d'abord la citoyenneté française. C'est-à-dire qu'on va après, par exemple, participer aux élections. Hein, et c'est pas simple, toujours. Et donc, il faut un peu comprendre ce qu'est la société française, la vie politique, pour pouvoir y répondre. Et du reste, je rappelle que dans le Code civil, c'est le seul moment où on parle d'assimilation, c'est sur la nationalité. Voilà, on parle d'intégration en général, mais dès qu'on parle de la nationalité, on dit que la personne doit être assimilée.
Si ça ne tenait qu'à lui, l'examen civique serait complété de quelques épreuves, selon lui, essentielles. Être capable de citer toutes les répliques des deux premiers OSS 117 de tête, connaître la date de naissance du président Chirac, pouvoir jouer les lacs du Connemara à la flûte à bec. Pour lui, celui qui échoue à une épreuve aussi simple ne mérite tout simplement pas d'être français. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous parlez tout en continuant de jouer de la flûte à bec, c'est
oui,
sidérant.
Vous avez assez étonnant.
Des cordes vocales fascinantes. C'est Cyril, ça. Plantons le décor, l'examen civique, d'où ça sort?
Imaginez, vous êtes dans une salle de classe, mais vous avez 40 ans, et comme un lycéen qui passe le bac,
comme
vous
toi.
Avez les mains moites. J'ai un peu plus de 40 ans. Face à vous, pas un surveillant, mais un agent de l'État. La question tombe, en quelle année l'esclavage a-t-il été aboli, ou encore qui habite à l'Élysée? Si vous ratez, vous ne devenez pas français. C'est ce qu'on appelle l'examen civique, une sorte de baccalauréat de la francité. Historiquement, ça sort d'un renversement complet de la logique. Car pendant longtemps, par exemple sous la Troisième République, la France avait besoin de fabriquer des Français sans trop s'embarrasser de questions. Comme il fallait combattre l'Allemagne, on ne vous demandait pas si vous connaissiez Molière. L'école et l'armée se chargeaient de façonner tout le monde pour rentrer dans le rang. Si je parle d'un renversement logique, c'est qu'à une époque, l'assimilation, c'était la conséquence de la vie en France, pas un préalable à la vie en France.
Alors quand est-ce que ça se retourne?
Vers la fin du XXe, l'ambiance politique change et l'idée qui émerge, c'est que la nationalité se mérite. Elle n'est plus un droit mais une récompense. En 2016, la France crée le contrat d'intégration républicaine. Selon le ministère de l'Intérieur, il doit permettre, je cite, « une formation civique étoffée, un renforcement du niveau d'exigence linguistique et un accompagnement adapté aux besoins de l'étranger ». C'est hier qui doit permettre de satisfaire à l'examen civique dont on va parler aujourd'hui. Un examen des symptômes, celui d'une nation qui doute de sa capacité
à intégrer. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Didier Lesky, je disais qu'avant le 1er janvier, un candidat à la citoyenneté française devait passer des formations linguistiques et civiques dispensées par l'OFI, mais sans obligation de résultat, en fait. C'est ça qui...
Il avait simplement une obligation de présence, si vous voulez. C'est la différence entre assister au cours et avoir le bac, si vous voulez, pour reprendre la métaphore scolaire qui vient d'être énoncée. Voilà. Et donc, la France, d'une certaine manière, s'aligne à ce qui se fait dans plusieurs pays européens où on a cette obligation de connaître la société dans laquelle on est. Et c'est d'autant plus important que les écarts culturels entre les sociétés d'accueil comme les nôtres et les sociétés de départ se sont agrandis, si vous voulez. C'est pour ça que dans les questions, par exemple, vous avez est-ce qu'une femme peut faire n'importe quel métier ? Est-ce qu'il y a une obligation scolaire ? Est-ce que vous pouvez faire ceci ou cela ? Est-ce que la France est une république ou pas ? Voilà. Est-ce qu'il y a une égalité de traitement ? Est-ce que vous avez le droit à la liberté de conscience ? Voilà, c'est des choses qui ne sont pas des évidences. Voilà. Et c'est pour ça qu'on rappelle les évidences avec cette idée que c'est pas immédiat, parce que la nationalité française, vous ne la demandez pas dès que vous arrivez. Hein, il faut attendre au moins 5 ans. Hein, enfin, 5 ans ou 3 ans pour ceux qui sont réfugiés.
Donc pour vous, le principe même d'un examen pour sanctionner ces connaissances-là, c'est une bonne chose.
Oui, je rajoute quand même quelque chose auquel sans doute vous n'avez pas en tête, c'est qu'il y a toute une catégorie d'étrangers qui ne sont pas soumis à cela. Les Algériens ne sont pas soumis à l'examen civique. Les personnes qui sont réfugiées ne sont pas soumises à l'examen civique. Les étudiants ne sont pas soumis à l'examen civique. Les plus de 65 ans ne sont pas soumis aussi à cela. Donc, du coup, vous avez des choses qui ne concernent qu'une partie de ceux qui sont appelés à rester longtemps.
Les citoyens européens non plus, par exemple.
Non, les citoyens européens non plus.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
What else aurait répondu Georges Clooney quand on lui a demandé pourquoi il voulait devenir français. Zoom aujourd'hui sur l'examen qui permet de devenir français, l'examen civique. Didier Lesky, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est avec nous pour nous expliquer. Alors Didier, c'est vrai, je le dis pour rigoler, mais ça nous a un peu donné envie de faire cette émission. Le fait que Georges Clooney soit devenu français, est-ce que lui, il a dû passer cet examen civique dont on parle ?
D'abord, il l'a eu avant le 1er janvier 2026.
Ah oui, c'est vrai.
Mais par ailleurs, je pense qu'il faut prendre le... La question, je pense, de manière différente, c'est plutôt une bonne chose que des démocrates américains
se réfugient chez nous.
Ben oui, c'est
quand même
un bon signe, plutôt qu'ils aillent en Italie ou en Hongrie, si j'ose dire. Donc, c'est plutôt bien. Et en plus, du point de vue des impôts, je pense que Georges Clooney...
Intéressant pour nous. C'est,
au moment où on cherche de l'argent partout, c'était pas inutile.
Pour revenir à l'examen civique, comment ils s'organisent concrètement ? Est-ce qu'ils sont placés dans une grande salle, justement comme au baccalauréat ? Combien de bonnes réponses ils doivent avoir ?
Alors, en fonction de ce qu'on souhaite, le nombre de réponses est un peu différent, mais en gros, c'est une trentaine de réponses sur 48, enfin 32. Voilà. Ce sont des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur, deux organismes, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et France Éducation Internationale, qui sont agréés et qui organisent les centres avec différentes structures, donc réparties à travers la France.
Ou ça dans des préfectures, par exemple ?
Non, ce sont des centres d'examen.
Okay.
Ce n'est pas dans les préfectures, ce sont des centres d'examen. Et
ça dure combien de temps, l'examen ?
Ça dure 45 minutes.
Ouais. Et pour valider l'examen, il faut avoir 100% de bonnes réponses ou non ?
Pas du tout.
Il faut pour avoir la moyenne ?
Il faut avoir 100% de bonnes réponses et il faut avoir un peu plus que la moyenne, mais c'est de cet ordre-là. Oui, voilà.
Un peu plus de la moyenne.
Donc un peu plus de 50% de bonnes réponses.
Oui, c'est ça, oui.
Et est-ce qu'il n'y a pas quand même deux poids, deux mesures ? C'est ce que dénoncent certaines associations sur le sujet de cet examen civique. Elles estiment que cette mesure est susceptible d'exclure les publics les plus précaires et produire davantage de situations d'irrégularité finalement.
Exclure les publics les plus précaires. D'abord, les publics les plus précaires, ce seraient ceux qui relèvent de la protection internationale, c'est-à-dire les réfugiés. Or, les réfugiés...
Ils n'ont pas besoin de passer.
Voilà. Après, ce n'est pas un examen qu'on passe immédiatement. C'est au moment du troisième renouvellement du titre de séjour, c'est-à-dire on est là au moins depuis 3 ans, et à ce moment-là, on va avoir cette exigence de langue en plus de l'examen civique, parce que on parle de
oui,
l'examen
parle
civique,
mais il y a aussi un test de langue.
Il y a aussi de la langue. Par exemple, les Européens, pour accéder à la nationalité française, sont soumis à un niveau de langue en même temps qu'on leur demande s'ils ont des revenus suffisants pour être en France. Si vous voulez, voilà, un étudiant européen qui vient, quand il va acquérir la nationalité française, on va lui demander des prérequis en particulier en ce qui concerne ses revenus.
Et sur ce niveau linguistique, c'est quoi le degré d'exigence ? On demande de savoir s'exprimer en français, de comprendre ce qu'on dit en français, ou il y a une dissertation sur Montesquieu.
En fonction de ce qu'on demande, il y a un niveau qui est différent. Pour la carte pluriannuelle, 2 ans, 4 ans, c'est ce qu'on appelle le niveau A2 de la nomenclature internationale, c'est-à-dire en gros la fin du collège. Mm-hmm. Voilà. Pour le titre de résident, on passe à ce qu'on appelle le niveau B1 du diplôme de langue française. Et donc là, on est plutôt à la fin du lycée, si vous voulez. Mm-hmm. Et pour la nationalité française, c'est l'entrée à l'université.
Ah non, l'entrée à l'université.
Voilà. Oui.
C'est ce qu'on appelle le B2.
Okay. Cet examen civique, il s'inscrit dans un durcissement progressif des politiques migratoires depuis quelques années dans notre pays aussi. Quel est le but premier de cet examen pour vous finalement ? Est-ce que c'est sélectionner celles et ceux qui ont le plus de chances de s'intégrer ou aussi décourager l'immigration dans notre pays ?
C'est d'abord décourager des comportements qui seraient contradictoires à nos acquis sociaux et sociétaux. Voilà, c'est dire aux personnes... Voilà ce que nous sommes, nous, collectivement, et voilà sur les choses auxquelles nous sommes attachés. Voilà. Et c'est important qu'elle l'intègre, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est un durcissement ? Indéniablement, c'est un durcissement, il ne faut pas non plus se cacher derrière les mots. C'est un durcissement qu'on voit à travers l'ensemble des pays européens. D'abord parce qu'on est un pays qui accueille beaucoup. Depuis 2000, il y a 3 millions de personnes en France qui ont acquis la nationalité française. C'est quand même pas rien. On est un des pays qui donne le plus facilement la nationalité française parmi les pays d'Europe. Historiquement, vous l'avez rappelé, pour faire des militaires, 1927, voilà.
Mais est-ce que ça exclut pas les personnes les plus précaires aussi, par exemple, ce genre d'examen ?
Mais c'est pas parce qu'on est précaire qu'on est forcément quelqu'un qui est analphabète. Hein, je veux dire, ça n'a pas de lien. Je veux dire, la précarité, ça peut être une précarité de travail, sociale. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne qui parlent parfaitement le français et qui sont dans une situation absolument précaire.
Oui, mais ça peut aussi dire ne pas avoir accès à Internet, ne pas forcément pouvoir se renseigner au préalable. Alors,
ou pas aller vous voir vous pour être formé, pour pouvoir avoir les 40 questions.
Pas avoir accès à Internet. D'abord, on peut voir les questions avec un simple téléphone. Hein, aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'ont pas de téléphone. Il y a plein d'endroits, par ailleurs, quand on n'a pas le téléphone, où on peut accéder à Internet. Alors, oui, il peut y avoir toujours des catégories de gens, qui ça peut exister, qui n'ont pas tout ça. C'est vrai. C'est pas non plus la dominante, si vous voulez. Hein, mais je comprends bien la préoccupation. C'est sûr, il y a toujours des cas individuels. De toute façon, l'immigration et les immigrés, c'est à la fois des groupes. C'est collectif et en même temps, c'est les qualités propres de chacune des personnes et les difficultés propres à chacune des personnes. Il ne faut jamais l'oublier et c'est pour ça qu'on a des associations et puis que l'OFI offre gratuitement les cours, je rappelle.
Dans quelques instants, il passera le plus périlleux des examens. Affronter Pierre Courade dans un quiz de culture générale, alors que précisément, étaler sa culture G, c'est l'activité favorite de Pierre Courade, qui, à force de tricher au trivial poursuite, commence en effet à connaître 2-3 trucs. Alors avant ça, Quentin, il est temps de nous livrer les résultats de votre traditionnel micro-trottoir.
Je marche dans les rues de France, Mathieu.
De France, carrément.
Porté par le souffle de la République et le sens aiguisé du service public.
De France et de Navarre.
Oui, je vous présente ma première rencontre de rue.
Bonjour, mon prénom c'est Bernard.
Bernard, vous avez quel âge ?
90 ans.
Qu'est-ce que vous faites, vous, en ce moment ?
Ah, je suis à la retraite, hein, camarade. Hein.
Ah oui, camarade. Le camarade, il a-t-il vu passer le thème du jour de Zoom Zoom Zen ?
Examen civique.
C'est un test obligatoire mis en place depuis le 1er janvier, là, pour les étrangers non européens souhaitant obtenir une carte de séjour, une nationalité ou...
Ça serait pas mal, mais... Il faudrait également que quelques Français y passent aussi à ce test civique.
Je lui parle alors du test en lui-même. Une question, par exemple, que symbolise le drapeau français ?
Moi, j'ai été militaire pendant 2 ans et demi. J'étais appelé. J'ai passé 1 an et demi en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Donc voilà, le drapeau français, je le respecte.
Mais c'est quoi ? Ça symbolise
ça, quoi ? C'est quoi cette question ?
C'est la question du test civique.
Mais ça symbolise la France, c'est tout, quoi.
Bon, on va essayer une autre question. Alors, avec Bernard, de quand date la constitution de la Ve République ?
Depuis De Gaulle.
Donc ?
De Gaulle, c'est 1959.
58.
Ouais, ok, j'étais en Algérie, mais les élections présidentielles n'ont pas eu lieu en 58, c'était en 59.
Non, c'était bien en 58 et je pense que je suis tombé sur le grand-père, Courade, certainement. Donc il voit bien que ce n'est pas si facile ce test et je salue Bernard. Je croise maintenant ce monsieur, costume vert, algue verte, cravate rouge et chapeau feutré.
Bonjour monsieur.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Hervé.
Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ?
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Je fais des recherches.
Vous cherchez sur quoi, vous?
Je fais des recherches historiques. Sur mon pays.
Oula. La France. Et son histoire.
Pardon, Quentin, mais qu'est-ce qu'une algue verte?
Oui. Ah, c'est la couleur du costume.
Ah, couleur algue verte. Ouais. Très bien. Ah oui.
Un vert algue.
Vert, quoi.
Oui, ouais, très bien.
Vert moche. Bon, c'est pas grave.
Vert moche, oui.
La France et donc son histoire avec un grand H. Voit-il de quoi nous parlons aujourd'hui?
Examen civique. Oui, d'accord, je vois ce que c'est. Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, que nous n'arrivons pas à intégrer beaucoup d'immigrés. C'est un vrai problème, parce que les immigrés sont nécessaires à la démographie française, ils sont nécessaires à un certain nombre de métiers sans lesquels ça ne fonctionnerait pas. Simplement, il faut prendre des personnes qu'on est capable d'intégrer et qui ont la volonté de s'intégrer.
Je lui fais lire la question du test que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle testcivique.fr.
Oui, oui, que symbolise le drapeau tricolore français? C'est pas très très bon. La réponse, aucune des réponses n'est très juste en fait. Le drapeau tricolore français, c'est le blanc de la monarchie et le rouge et le bleu de Paris. Donc à la limite, c'est le A qui est le plus proche.
Alors que la réponse du site, c'est la D. L'unité du peuple français et les valeurs républicaines.
C'est ça, c'est pas... Historiquement, c'est faux.
Bon, donc j'ai pas eu que le grand-père, j'ai eu toute la famille Courat. Ouais. Ma dernière rencontre, c'est cette femme qui porte une casquette de Gavroche, un jean large, une belle veste en laine qui semble lui tenir chaud. Comment elle s'appelle?
Anka.
Vous avez quel âge?
Et ça, c'est une question à ne pas poser à une femme.
Comme j'entends son accent, je lui demande d'où elle vient.
Originairement, je suis née en Roumanie.
Ok.
Ok, et puis je vis en France depuis 35 ans.
Vous avez été naturalisée,
ouais. Tout à fait.
En quelle année, je peux vous demander?
1995, peut-être.
Sous Chirac.
Peut-être. Pasqua était encore là, donc je sais plus.
Comment ça s'est passé? Je vous pose la question pour vous.
Je pense avoir été convoquée auprès de la... Peut-être la préfecture, oui. Pour avoir un entretien.
Et vous vous souvenez de l'entretien?
Pas trop, désolée. Mais je crois que c'était un entretien qui vérifiait les compétences de langue française.
Ça a bien évolué depuis. Je lui montre le questionnaire 2026 de l'examen civique.
Ah, en effet, c'est pas simple. Vous voyez, un Français de souche peut se tromper alors. Pourquoi on demanderait ça à un étranger? Est-ce que l'intention est de piéger? On peut se poser cette question.
Avant de la laisser partir, je lui demande à quel moment elle s'est sentie intégrée, définitivement française.
Ah, c'est une question compliquée, complexe. Peut-être quand j'ai réalisé que je pensais et je rêvais en français.
C'est joli. Passez une bonne journée.
Merci, vous de même.
Au revoir.
Ciao. Aujourd'hui, pour devenir français, il faut surtout cocher les bonnes cases d'un QCM qui compte une quarantaine de questions. Les dates, les symboles, les institutions, ça se valide, mais est-ce que ça fait toujours rêver?
Didier Lesky, quand on voit que même nous, on a du mal à répondre à certaines questions, et on peut s'interroger, comme le dit Anka, est-ce que ce test, cet examen, il a été pensé pour piéger en quelque sorte?
Je ne crois pas. D'abord, il faut rappeler, enfin, je vous l'avais dit, qu'il y a des réponses qui sont proposées et qu'on peut se préparer à l'examen. Et du reste, cet examen, il est plus objectif que ce qui se passait avant, puisqu'en réalité, il n'y avait pas simplement un test de langue quand on demandait la nationalité française. Il y avait aussi des questions posées par un fonctionnaire
fonctionnaire sur qui on tombait, ça pouvait être plus ou moins vicieux.
Qui pouvait choisir les questions et enregistrer les réponses, mais c'était moins objectivable qu'un écrit, si vous voulez. Donc je pense que, de ce point de vue-là, il y a une avancée vers l'égalité et qui permet de mieux objectiver le fait que vous êtes apte ou pas. Et puis, l'intégration, c'est effectivement un processus plus ou moins long d'intégration des normes d'un pays. C'est ça, l'intégration.
Il y a une chose aussi qui sort du micro-trottoir, et on l'a appris la semaine dernière. Aujourd'hui, en France, il y a plus de décès que de naissances. Donc, on va avoir un problème démographique qui ne va pas ravir l'extrême droite. C'est qu'on va avoir besoin, on a besoin de l'immigration aujourd'hui, ne serait-ce que pour les retraites, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas bien de faciliter la nationalité?
Je crois que c'est une vision un peu courte, si vous voulez, parce que, d'abord, c'est un peu utilitaire des gens. La deuxième chose, c'est que vous avez des pays qui sont des puissances économiques dans lesquelles il n'y a pas d'immigration. La Chine, par exemple, et elle remplace sa perte démographique, puisque la Chine est en hiver démographique, par une robotisation qui est extrêmement développée. Voilà. Et la troisième chose, c'est que cette immigration n'a de sens, et un certain nombre de pays s'orientent vers ça, si elle est d'une certaine manière choisie pour répondre à des besoins sociaux ou à des besoins techniques très précis. Voilà, c'est pas avec n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Et par ailleurs, en ce qui concerne les retraites, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simplement les personnes travaillent, parce qu'après, ben voilà, elles seront aussi à la retraite, donc comme on fait après, ça peut être sans fin, si vous voulez. Je pense que c'est une vision utilitaire qui n'est pas glorieuse, en fait. Hein. Et je vous le dis, si les gens regardent à travers le monde, voilà, personne ne traverse la frontière chinoise avec cette idée qu'une fois qu'il l'aura traversé, il aura droit à un avocat et de voir un médecin pour essayer de faire valoir le fait qu'il a le droit de rester dans le pays qui s'appelle la Chine.
Il ressemble au test de culture générale des Miss France. On continue de zoomer sur l'examen civique que se doit de réussir l'étranger qui cherche à obtenir la nationalité française. Un examen que je n'ai jamais passé, car en Suisse, il y a des équivalences. À suivre, un zoom zoom test d'anthologie, puisqu'il va exceptionnellement opposer Quentin à son pire ennemi, Pierre Courade. Le Dark Vador de la mauvaise foi.
Je m'en vais du coup, ouais.
Non, Manon, vous restez là. Manon
c'est pas mon pire ennemi.
Qui est puni, je le rappelle, pour un subordination. Qui est votre pire ennemi ?
Cyril Lacarrière.
Très bien. Oh. Manon qui est puni pour un subordination contre les points, on l'espère un peu mieux que les verts de Porto. Le quiz arrive juste après Swad Massy et Gaël Faye, d'ici, de là-bas, sur France Inter. Démarrer le quiz avec des pénalités, Manon et Quentin y sont habitués, mais ne pas démarrer le quiz du tout, voilà qui est inédit dans l'histoire de notre émission. Seulement voilà, le règlement du Zoom Zoom Test est impitoyable, d'autant plus que je l'écris au fur et à mesure au gré de mes lubies. Et il dit ceci, quiconque traite le présentateur de cette émission de bébête se verra immédiatement privé de quiz et remplacé par le premier imbécile venu, à savoir Pierre Courade.
Pardon.
Car certes,
bonjour
Manon,
Pierre. C'est les règles. Bonjour Pierre.
Car certes, Manon, je n'ai peut-être pas inventé le fil à couper le beurre et j'ai un jour cru qu'un mur avait été érigé dans la nuit entre notre bureau et le studio, alors qu'il s'agissait simplement d'une porte coup de feu. Mais de là à me qualifier de bébête, je n'ai pas digéré. Jouons au Zoom Zoom Test. Alors aujourd'hui, à la base, j'avais prévu de vous poser tout simplement les vraies questions du vrai examen civique désormais nécessaire pour obtenir la nationalité française. Seulement voilà, à la lecture de ces questions, quel animal est le symbole de la France ? Quel symbole de la République est tricolore ? Ou encore, a-t-on le droit d'insulter publiquement quelqu'un parce qu'il est différent ? Je me suis dit que vous aviez beau être des brêles, vous connaissiez les réponses, en l'occurrence le coq, le drapeau, et non, en France, on n'a pas le droit d'insulter publiquement quelqu'un parce qu'il est différent, juste en privé dans la boucle WhatsApp de Zoom Zoom Zen, où Quentin avait moqué la petite taille de Pierre en ajoutant qu'il ressemblait, je cite, au petit Émile. Quentin, vous démarrez donc ce quiz avec deux points de pénalité pour propos déplacés. Manon, restez là, car à un moment, vous allez avoir un rôle décisif, vous verrez. Dans ce Zoom Zoom Test, consacré donc à ces autres examens civiques qui sont parfois beaucoup plus difficiles que chez nous. Parfois, c'est même pas un examen, c'est un contrôle continu. Comme par exemple en Suisse. terre d'accueil de tous les citoyens du monde, quelle que soit leur origine, leur religion, tant qu'ils ont une American Express Platinum. Voilà, même en Suisse, il n'y a pas que l'argent qui compte. Prenez par exemple Ronnie Van Unen et Saskia Scheltes, deux ressortissants néerlandais installés depuis 20 ans à Zurich, maîtrisant parfaitement l'allemand et ayant un casier judiciaire vierge, bref, des gens bien. Et pourtant, ils vont se faire recaler de la citoyenneté helvète. Selon vous, pour quelle raison? Ils n'avaient pas assez d'amis, et c'était suspect. Ils ne savaient pas yodeler, et c'est obligatoire pour devenir suisse. Ou ils se promenaient trop souvent en jogging, sans faire le sport, ce qui est contraire aux règles civiles dans le canton de Zurich.
C'est dommage.
Alors, j'aime bien quand vous brandissez votre doigt en annonçant que vous étiez dedans. Bonne réponse de Quentin, bravo, il s'est ressaisi.
Mais trop tard, c'est moi qui fais les points, c'est non.
Ah c'est non, d'accord, ça ne passe pas, Quentin, ça ne passe pas.
Elle est censée ne pas être là.
Oui, mais elle est là, et elle est l'arbitre des élégances aujourd'hui.
Oui, mais bon.
Si vous voulez devenir Suisse, votre Amex ne suffit pas, il faut aussi prouver que vous avez des amis, en tout cas dans certains cantons, où c'est le vote d'un conseil communal qui peut vous octroyer ou pas le précieux sésame. Et en l'espèce, les voisins de Ronnie et Saskia avaient déclaré en toute objectivité, nous avons eu l'impression que le couple ne s'intégrait pas réellement à la Suisse, ils nous ont pas convaincus.
C'est fou.
Désolé les bâtards, mais l'aventure s'arrête là pour vous. Prenez votre sac à dos puis vous fichez le camp direction Rotterdam. Autre explication
Quentin
possible.
Quentin serait jamais suisse. Hein,
c'est une imitation.
Vous savez que je suis suisse. Autre explication possible, les Suisses détestent les Hollandais. C'est possible puisque nous voilà maintenant à Gip-Oberfrick, au cœur du canton d'Argovie, dans un écrin de verdure. Nancy Holten, qui a donc le malheur d'être elle aussi hollandaise, a 45 ans. Elle est
néerlandaise peut-être. On va arrêter de dire Hollande.
Je dis ce que je veux.
D'accord.
Elle est arrivée. Vous prenez un point de pénalité, vous êtes arrivé en 3. Elle est arrivée en Suisse à l'âge de 8 ans. Elle parle couramment le suisse-allemand, ses enfants sont suisses, mais le conseil de Gip va quand même lui refuser la nationalité à deux reprises, parce qu'elle se plaignait un peu trop de quoi, la Nancy? Des remontées mécaniques qui polluent? Des fromages qui sentent un peu trop fort? Ou des cloches des vaches qui font trop de bruit?
C'est. Je suis devant, une fois de plus.
Manon, qui est devant?
C'est Quentin.
Il
est à moins 3.
Bravo, il est à moins 2.
Il est souvent derrière pourtant.
Les cloches des vaches font trop de bruit, ben retourne bouffer les dames dans ton pays tout plat, aurait déclaré, même si c'est moi qui spécule, le président du conseil municipal de Gip-Oberfrick, où donc ça ne déconne pas. Mais il n'y a pas que la Suisse qui est intraitable en matière d'immigration. On part à présent voir ce qui se pratique en Allemagne.
Ah.
Ce grand pays, comme l'appelait Mitterrand, est le grand tombe de Quentin, mais l'un en 85 et l'autre en 1942.
Oh.
Nous sommes en 2020 et un médecin libanais installé en Allemagne depuis donc plus de 10 ans entame les démarches pour obtenir la naturalisation. On est face à un parcours sans faute, hein, puisqu'il obtient tout simplement les meilleurs scores de tout le Länder à l'examen civique. Sauf que là, le jour de la remise officielle de son certificat, c'est le drame, Bedebye et la germanité. Car quoi?
Ah.
Le type éclate de rire en entendant l'hymne allemand durant la cérémonie.
Ça, c'est drôle.
C'est possible.
Tu peux pas te faire virer pour ça.
Le type refuse de serrer la main de la fonctionnaire en charge de son dossier, car c'est une femme. Ou le type décline la saucisse de l'amitié, une knack que chaque nouveau citoyen est obligé d'avaler pour montrer son adhésion à l'idéal gastronomique allemand.
B, je suis devant.
B, non, je suis devant là.
T'as pas dit C, Pierre, ça
m'a. Non, j'ai dit B.
C'est une bonne réponse de Pierre Courade et c'est la première de l'histoire du quiz.
Il a dit B, mais j'étais devant.
Non, t'es pas devant, attends. Non, arrêtons.
Quentin, on peut pas vous le donner à chaque fois.
Non, Quentin, arrêtez.
La régie dit que je suis devant.
Arrêtez d'essayer de.
Non, mais la régie n'écoute pas.
On a dit que c'est moi qui comptais aujourd'hui.
Absolument. Merci, Manon.
Le gars était presque allemand, les papiers étaient prêts, tout est. Au dernier moment, le refus de la poignée de main. Un danger de tentation sexuelle, expliquera notre docteur libanais, dont on se demande comment il prenait l'attention de ses patientes. Enfin, pour terminer, direction celui que ses admirateurs appellent le pays du soleil levant et ses détracteurs, comme Cyril, le pays au zéro fromage, le Japon. Même le comté, ils sont capables de le foirer, c'est con là, nous disait-il outré. Bref, au Japon, jusqu'au milieu des années 80, et sans que ce soit une règle légale, mais disons plutôt un usage administratif très ancré, obtenir la nationalité nippone nécessitait de renoncer à quelque chose de très personnel. Son signe zodiacal? Sa religion? Ou son nom?
C'est
Jusqu'au milieu des années 80, vous avez dit?
Oui.
Allez,
ça change tout.
Je pense que c'est la réponse A.
Et vous avez bien fait de prendre le temps de la réflexion, car c'était la réponse C. Bravo, Quentin! Pendant longtemps, l'administration japonaise exerçait une pression, pour que les candidats à la nationalité adoptent un nom utilisant des caractères kanji ou des katakana traditionnels afin de favoriser l'assimilation complète. Si cet usage a disparu, il n'en demeure pas moins que vous ne pouvez pas écrire votre nom en alphabet latin dans vos documents officiels japonais. Vous devrez choisir une transcription. Par exemple, Mariani reste Mariani, qui signifie l'affection sincère de la balle de soie. La carrière devient Rakarieru, littéralement excellence étendue par la raison.
Lol.
Et lui devient Rui, soit la fourberie Henri Dupuytois. je déconne, c'est la trame du dragon. La trame du dragon.
La trame du dragon.
Manon, vous êtes resté là pour une bonne raison, c'est que vous pouvez décider d'octroyer 10 points supplémentaires à qui vous voulez.
Oh non, c'est horrible, je les adore les deux.
Je jouais en votre nom.
Non, on fait les vrais scores. Quentin moins 1, Pierre 1. Voilà.
Ah, victoire de Pierre. Bravo, mon Pierrot. Tout ça avec une seule bonne réponse. On zoome sur le tout nouvel examen civique en vigueur depuis le 1er janvier. Didier Lesky, le directeur général de l'OFI, est avec nous. Didier, avant l'examen civique mis en place le 1er janvier, il n'y avait rien qui sanctionnait la connaissance des principes républicains, de l'histoire de France. On avait parlé du test linguistique, ça existait, mais côté histoire de France, c'était...
Non, c'est pas exact. Il y avait un entretien avec un fonctionnaire qui vérifiait un minimum de connaissances de la société française et de l'histoire de France.
Donc, mais c'était laissé à la discrétion du fonctionnaire.
Il y avait quelque chose, si vous voulez, mais vous pouvez avoir, et c'est vrai, une interaction avec un fonctionnaire qui ne soit pas aussi objectivable que de réponse à un QCM, voilà. Mais il y avait quand même quelque chose. On vérifiait la connaissance de la société française. Il y avait un test d'assimilation quand même. Voilà, il n'y avait pas rien. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les autres catégories, c'est-à-dire la carte pluriannuelle ou la carte de résident, la seule chose qu'on demandait, c'est d'avoir assisté aux cours de l'OFI. À 80% des cours de l'OFI, si vous voulez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre le bac et être au fond de la classe à côté du chauffage.
Quentin ?
Les questions, on peut revenir un tout petit peu peut-être sur les questions. À quoi correspond la date du 14 juillet ? Ça, on l'a dit. A-t-on le droit d'insulter publiquement quelqu'un ?
On l'a dit.
Parce qu'il est différent. Le symbole de la France. Mais il y a aussi des questions plus complexes, comme depuis quelle année l'école publique est-elle gratuite ? Ou en quelle année a été créée la Communauté économique européenne ? Là, c'est quand même pointu.
C'est pointu, mais à chaque fois, on vous propose des réponses. Hein. 1881, l'école est gratuite, et 1882, elle est rendue obligatoire. Mais c'est important de le rappeler à des personnes qui viennent de pays où l'école n'est pas forcément obligatoire, et parfois pas gratuite d'une certaine manière. Et en ce qui concerne la deuxième question, c'était la communauté...
Voilà, donc là, c'est
1950, les premiers...
1957.
La déclaration Schuman, puisqu'il y a une question sur le 9 mai. Mm-hmm. Pourquoi le 9 mai est la fête de l'Europe ? Parce que c'est la déclaration Schuman, et puis après, il va y avoir tout le processus. Tout ça est expliqué, mais c'est pas idiot, si vous voulez, de rappeler et avec la nécessité d'apprendre un minimum le pays dans lequel vous êtes. Mais vous iriez dans n'importe quel autre pays, et en particulier ceux qui sont peut-être loin. Vous avez parlé du Japon. On vous demande des choses qui sont autrement plus complexes que ce qu'on demande aussi. Alors, la Suisse, la question du vote, c'est ce qui était pratiqué pendant la Révolution française. Pendant la Révolution française, les municipalités pouvaient décider d'intégrer à la citoyenneté française une personne en fonction de l'appréciation
de
la
classe,
collectivité locale. Voilà, on l'intégrait par la commune. Voilà, et la Suisse continue cela, on intègre par la commune. Et c'est des processus démocratiques, enfin, avec...
Une démocratie directe.
Il y a aussi des questions de mise en situation. De quoi s'agit-il ? C'est quoi, des questions
Alors,
de mise en situation ?
C'est justement pour passer du théorique à la pratique. Ouais. Alors, voilà, est-ce qu'on peut ou pas serrer la main d'une femme ?
Ça, c'est une mise en situation.
Et bien évidemment, on sait que pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de du caractère social. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut manger avec les autres, d'une certaine manière.
J'ai vu, Didier, que le droit des étrangers en France avait été réformé 117 fois depuis 1945. Ça fait quand même un paquet de fois. Pourquoi autant de lois à ce sujet ?
Parce qu'il y a une évolution constante des immigrations. Mais on n'est pas le seul pays où il y a ça. Par exemple, sur l'accès à la nationalité, sur le droit au regroupement familial. Enfin, il y a des évolutions constantes. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que ça dépend des différentes majorités et de l'évolution de l'esprit public. Enfin, c'est bien évidemment...
Oui, on a l'impression que c'est punitif. Ça donne cette impression-là quand on est sur le papier et qu'on voit les questions, on vient de le dire, alors que vous nous avez rappelé que depuis 2000, il y a eu 3 millions de gens qui sont devenus français, et qui font partie de notre pays, qui sont intégrés, qui travaillent dans notre pays.
Oui.
On a l'impression que là, c'est punitif.
Mais c'est punitif, c'est une vision un peu déformée. La France, comme l'Union européenne, c'est une zone d'élargissement des diversités humaines. Aujourd'hui, il y a 13% d'immigrés dans la population dans l'Union européenne. Vous savez, en Asie, c'est moins de 2%. Hein. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la Chine, mais en Amérique latine, c'est moins de 3%.
Donc on est une société extrêmement ouverte, c'est ça que vous dites. Il faut
pas oublier. Sociétés européennes, leur caractéristique, c'est d'être ouverte et d'avoir un spectre des diversités qui ne cesse de s'élargir. Vous avez parlé tout à l'heure de religion au Japon avec une question, mais la caractéristique de l'Union européenne, c'est l'élargissement des diversités. On le voit à travers la religion, mais on peut le voir à travers les personnes, leur culture. C'est l'inverse, par exemple, de ce qui se passe au Maghreb, hein, où dans les pays qui sont les berceaux, par exemple, de la chrétienté. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de chrétiens, ou presque plus, ou peut-être un peu encore en Égypte. Voilà, alors que nous, c'est absolument l'inverse. Voilà, et c'est une différence fondamentale.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une carte, aujourd'hui, elle est dorée, elle est très chère et elle promet le rêve américain. Son nom, la Gold Card, son inventeur, le président des États-Unis lui-même, ce cher Donald Trump. Il a lancé officiellement en décembre dernier, alors elle ne sert pas à s'acheter des goodies à la Trump Tower, mais c'est un nouveau visa, un dispositif créé spécialement pour les plus riches qui veulent venir investir aux États-Unis. Je dis les plus riches car, tenez-vous bien, cette Gold Card coûte 1 million de dollars pour les particuliers. 2 millions pour les entreprises. Elle promet notamment d'obtenir une résidence aux États-Unis et des avantages fiscaux. Trump dit qu'il veut attirer des personnes productives, qualifiées et vérifiées qui vont créer des emplois. Ça va se vendre comme des petits pains. C'est une aubaine, se félicite le président américain. Sa Gold Card est une version de luxe et élitiste de la Green Card qui permet aux immigrants de tout niveau de revenus de vivre et de venir travailler durablement aux États-Unis. Un sésame de plus en plus difficile à obtenir aujourd'hui. Car on le sait, depuis sa réélection, Trump mène une véritable bataille contre l'immigration. Depuis des mois, des milliers de migrants sans papiers sont expulsés par la ICE de plus en plus violemment. Les ultra-riches, eux, peuvent entrer par la grande porte. Les États-Unis ont également suspendu les demandes d'immigration en provenance de 19 pays, principalement situés en Afrique et au Moyen-Orient. Par ailleurs, le gouvernement a stoppé l'examen de toutes les demandes d'asile et annoncé le réexamen de milliers de dossiers déjà approuvés par l'administration de l'ancien président Joe Biden. En septembre, Donald Trump a également signé un décret instaurant des frais de 100 000 dollars pour les demandes de visa de travail destinées aux travailleurs étrangers hautement qualifiés. La Gold Card s'inscrit dans une longue tradition, celle des visas investisseurs qui existent déjà aux États-Unis, qui permet à un étranger d'investir et de diriger une entreprise là-bas. Les démocrates dénoncent une Amérique à deux vitesses, celle d'une nation qui trie ses migrants non plus à la frontière, mais au portefeuille. L'image est flippante, l'immigration devient un produit de luxe.
Merci Manon, l'immigration devient un produit de luxe. On parle d'immigration choisie. Vous nous disiez quelque chose d'intéressant en antenne. Là, on se moque de la Gold Card de Donald Trump, mais pour les médecins, par exemple, le recrutement des médecins, vous dites qu'il y a un souci en France.
Il y a un souci. Le souci, il est lié au fait que au début des années 70, il y a une politique qui est tout à fait discutable, qui a été de réduire considérablement l'accès aux études de médecine. Voilà, avec un examen au bout de la première année, avec ce qu'on appelait le numerus clausus. Voilà. Et on est arrivé à cette situation absolument paradoxale, qu'on pourrait même appeler de néocoloniale, c'est-à-dire qu'on fait appel à des médecins, en particulier venant du Maghreb ou des zones francophones, dont on n'a pas payé les études, alors que les études de médecine, c'est quand même 10 ans, c'est un coût à la collectivité. Une fois qu'ils sont ici, ils sont sous-payés, disons les choses. Hein, et en même temps, on a empêché des milliers de jeunes, hein, qui étaient brillants, d'accéder aux études de médecine. Et on a même réinventé les études de médecine sans ITER, puisque les plus riches, pour le coup, ils peuvent aller en Roumanie, hein, ou même au Portugal, faire des études de médecine, leur diplôme est reconnu, et ils viennent ici, et puis après, ils exercent la médecine, mais parce qu'ils ont eu des parents qui ont réussi à leur payer des études à l'étranger. Tout ça est quand même très, je veux dire, on peut s'interroger. Voilà, après, on peut dire on a besoin des médecins étrangers. Oui, enfin, c'est pas glorieux.
C'est pas glorieux, c'était l'édito de Didier. Merci beaucoup. Et voilà, qui voilà ? Mais elle est radieuse aujourd'hui. Bonjour Marine Leonardi.
Merci, bonjour oui. Mathieu.
Oui, vous avez eu combien, vous, au test, Marine ?
J'ai le sentiment que je vais me faire tâche du territoire.
Enfin, une bonne nouvelle en 2026. La chronique de Marine Leonardi, c'est juste après Olivia Dean, j'adore. Baby Step sur France Inter. In the rearview.
truth for worlds apart. I'm used to being near you. When I'm down to 10%, and you plug me straight back in. Now there's no one to text when the plane lands, or to call when it's taking off. Right there, baby steps, I'll be my own pair of safe hands. It's not the end, it's the making of. Right there, for now I'm taking but baby steps. Taking but baby steps.
En tant qu'ami, on l'avait pourtant alerté la semaine dernière. Publier plus de 30 stories Insta par jour n'est pas raisonnable. Surtout quand on n'est pas astronaute, mais juste habitant du 11e arrondissement. Et qu'on n'a pas une vie, suffisamment trépidante pour justifier d'assommer ses followers sous des vagues de publications, comme par exemple la pire, déclinée pas moins de 15 fois hier, la story fleuve dite du bar.
Oh là là, ouais.
On peut y voir donc 15 photos successives d'un bar, le poisson, avec à chaque fois un jeu de mots de qualité. Raymond Bar, Jean-Marc Bar, se taper des bars, Barcola pour les fouteux, et même Babar. Résultat, 181 unfollow et un seul like, celui de Guigui Pop. Bonjour Pierre Courade.
Ça vaut tous les unfollow. Hein,
c'est vrai.
Il rit seul encore à ses vannes.
J'en avais d'autres. En plus, je pense m'être arrêté au bon moment.
Après 30 stories, je suis pas certain.
Mais on devrait tous l'unfollow en même temps.
Ouais.
On les met
non.
Moi, je n'en ferai
vos tristes, vos vies seraient trop tristes.
Ouais, bon. Vos tristes rêves. Vous nous résumez, sans mauvais jeu de mots, mon cher Pierre, tout ce qu'on s'est dit sur le nouvel examen civique en une minute chrono.
J'éviterai donc tout baratin. Didier Lesky, aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, et comme l'an dernier, c'est en hiver qu'on reçoit l'ESCI. Aujourd'hui, il nous a expliqué ce qu'était l'examen civique, une nouveauté pour accéder à la nationalité française depuis le 1er janvier. Il est aussi indispensable pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle et une carte de résident. Il est organisé par des organismes agréés par l'État. Chaque examen est composé d'une série d'une quarantaine de questions de culture générale sur l'histoire de France, nos institutions, la culture française. Par exemple, il faut savoir à quoi correspond le 14 juillet et dire en quelle année a été fondée la 5e République. Didier Lesky nous a précisé que les questions étaient plus ou moins difficiles selon le statut auquel on est candidat. C'est sous la forme d'un QCM, on peut s'y préparer grâce à l'OFI ou en bûchant les questions sur le site du ministère de l'Intérieur. Il y a aussi un examen de langue, là encore plusieurs niveaux requis selon les papiers que l'on souhaite. La France s'aligne en fait sur ce qui se fait dans la plupart des pays européen. L'idée derrière cette obligation est de rappeler qu'obtenir la nationalité française, c'est devenir citoyen français. Être citoyen, c'est voter. Il semble donc cohérent de connaître et de comprendre notre société. C'est une question d'assimilation, surtout dans les cas où l'écart culturel est important. Dernière précision, pour valider cet examen civique, il faut avoir répondu correctement au moins 80% des questions. Et je tiens à préciser quand même à Quentin, que ce soit ma famille ou pas, les intervenants dans son micro-trotte n'avaient pas tout à fait tort. Le drapeau tricolore, c'est bien le roi pris en tenaille dans Paris, et de Gaulle a bien été investi en 1959, même s'il a été élu en 58.
Bien joué, Pierre Courade. Après avoir remporté le quiz, il apporte d'autres précisions. Hein, bravo.
Il est très bon.
Il est excellent, il faut dire, il est excellent. Il est chiant,
mais il est
excellent.
Mais il est bon.
Excellent. Bah
forcément, une minute d'antenne.
Ouais.
Plus, beaucoup plus.
Marine Leonardi, vous avez passé l'examen civique avec succès, vous, évidemment.
Eh oui, Mathieu, j'ai eu 93% de réponses positives. Alors, je n'ai pas su localiser Besançon sur une carte, mais
j'ai eu un bonus pour avoir chanté à la perfection Confession nocturne de James Evita. Voilà. Non, je plaisante. Hein. L'examen civique a été créé à l'initiative de Bruno Retailleau. Donc vous doutez bien que les questions, c'est plutôt faut-il saumurer avant ou après la cuisson des chaudins dans une andouille de Guéméné ? Quoi, Mathieu, vous ne savez pas répondre à cette question ? Mais quelle honte ! C'est pas grave, hein, j'en ai une autre pour vous. Ah. En quelle année l'esclavage a-t-il été aboli définitivement en France ? Oui, la question m'a surprise également. J'ai tout de suite pensé à notre stagiaire Pénélope, hein, qui pédale dans le sous-sol de Radio France. Mais apparemment, la question exclut aussi les 50 000 Philippines qui bossent dans le 16e arrondissement 80 heures par semaine pour un salaire de misère. Mais bon, on lui met à disposition notre chambre de bonne de 7 mètres carrés. Tu sais, c'est beaucoup pour eux. Ils n'ont pas ça là-bas. Elle est tellement heureuse de travailler chez nous. Et comme ça, les enfants apprennent l'anglais. C'est vraiment super. Mathieu s'étonne. 7 mètres carrés ? Guacarez ? Mais c'est énorme pour le petit personnel. Il y a d'autres petites questions sympatoches dans le questionnaire. Quel pays ou région du monde a été colonisé par la France ? Oh bah demandez-nous plutôt qui on n'a pas colonisé, ce sera plus simple. Vous avez une quarantaine de feuilles double A4 ? C'est une interro de 4 heures ou bien ? D'ailleurs, fair play, cet examen civique n'est pas imposé aux réfugiés, aux Algériens et aux plus de 65 ans. Alors j'imagine hein, qu'on estime que les Algériens ont vu la culture française de près, hein, rapport au fait qu'on a envahi leur pays. Calmez-vous les fachos, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Retailleau. Moi je te le dis, hein, mes grands-parents italiens, ils n'auraient pas passé le test. Voilà, ma petite grand-mère, elle m'a dit pendant 25 ans... T'es la poubelle. Comprends que t'es la plus belle. Enfin, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Si ça se trouve, elle parlait hyper bien français. À mon avis, la priorité quand elle est arrivée en France, c'était pas de connaître par cœur la date de création de la communauté européenne. C'était plutôt de trouver un concentré de tomates qui tienne la route. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu fais passer le test ici, il y en a pas mal qui dégagent. Et moi, la première, bah non, évidemment que je n'ai pas passé l'examen. Hein, j'ai pas que ça à foutre. Déjà, le permis de conduire, j'ai raté le code 2 fois. Et en même temps, le panneau sens interdit. Ils peuvent pas écrire sens interdit. Je sais pas, ça serait plus clair. Enfin, même s'il y a beaucoup de mecs qui ne comprennent pas cette phrase, mais bon. Et puis bon, j'ai appris il y a 2 semaines que le Calvados, c'était aussi un département. Oui, bah rigolez, les Sciences Po, là, n'empêche qu'heureusement qu'il y a le service public pour vous embaucher. Hein, tu fous Quentin en entreprise, il tient 24 heures. Tu le retrouves en boule dans les chiottes, genre quoi, mais vous avez pas encore des sanitaires en non-mixité. Là, ça va partir en crainte de tout.
Ah mon Dieu, mais c'est bon.
Vous aussi,
mais il y a quelque chose qui se passe dans ce
trop
studio.
De
C'est pas l'argument que nous a donné Manon l'autre jour. Hein.
Non, ça, bah non.
Attention, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de donner la gourde de Manon, sachant que c'est avec cette gourde qu'elle s'est étouffée la semaine dernière. Jeudi dernier, elle s'est étouffée.
Oui, mais c'est bon, elle reprend son souffle.
J'enchaîne, je vais jamais y arriver.
Bon, on rend l'antenne.
Bon, après, il y a des questions plus difficiles que d'autres. Je suis payée pour toute la chronique. Une femme peut-elle créer son entreprise ? Alors ça, c'est une question délicate.
Il prend ton souffle.
Et Cyril y a répondu ce matin avec beaucoup de nuance. Elle peut, oui, maintenant. Est-ce qu'elle va y arriver ? Enfin, tout ça pour cette veine, je sais pas si... Enfin, heureusement qu'il y a George Clooney. Je suis en train de me déliter complètement. Enfin, je vais carrément saigner du nez maintenant. Dans ce...
wow.
Oui, mais c'est
Marine, est-ce que vous voulez que je conclue votre chronique ?
Oui. Non, enfin, heureusement, je finis. Enfin, heureusement qu'il y a George Clooney et sa femme Amal qui débarquent en France. Tout le monde crie au scandale. Ouais, c'est honteux, ils n'ont pas passé l'examen civique. Non, je plaisante. Tout le monde se réjouit vu que ce sont deux personnes riches et célèbres. Ils ont été cooptés gracieusement parmi nous pour, je cite, leur action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. Un Américain qui vend du café suisse, c'est vrai que ça a beaucoup aidé la France récemment. J'espère qu'il faisait au moins référence à Madame Amal Clooney, qui est une avocate émérite. Oui, aujourd'hui, ça va pas. Je pars en vrille. Qui est une avocate émérite, grande défenseuse du droit international et qui s'habille divinement bien. D'ailleurs, beaucoup disent qu'on se ressemble.
Il y a quelque chose.
Voilà, merci. Bon. Belle, intelligente. Oui, tout à fait. Il faut pas me couper parce que déjà, là, je
plus,
belle, intelligente et bien sapée. Peut-être qu'en effet, elle n'a pas besoin de passer le test pour être française.
Merci beaucoup, Marine Lanier. Reprenez votre souffle. Merci, Didier Lesquilles, de nous avoir présenté le nouvel examen civique. Merci, Didier. Vous reviendrez certainement dans quelques mois, l'hiver prochain, pour les skis. Zoom, zoom, zen.